Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous un sabbat enrichissant. Dans la Bible, nous trouvons un certain nombre de comparaisons. Nous en trouvons par exemple dans Proverbe 27 et le verset 20. Proverbe 27, verset 20, je m'y rapporte pas, où c'est marqué que le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Une comparaison donc où on parle des désirs de l'homme, ses convoitises, ses désirs avides, et c'est aussi pour nous un avertissement. Nous qui vivons à une époque où on parle de toujours plus, toujours davantage, quand les yeux de l'homme sont insatiables, ça détruit son potentiel, potentiel que Dieu a prévu pour l'homme, sans parler de son bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, d'autres qui sont désintéressés. Et dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2, 2 Timothée chapitre 3, 1 et 2, je lis une partie de ces deux versets seulement. Nous trouvons ceci. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et en grec, le mot, c'est un mot intéressant pour nous, c'est le mot philotos. Auto, qui vient d'autos, qui veut dire soi-même, lui-même, opposé à quelqu'un d'autre, et philos, qui veut dire cher ou ami. Regardons un lexique biblique français, nous trouvons les deux définitions suivantes de ce mot. Amour de soi-même, et deuxième définition, trop attentif à son propre intérêt. Égoïste. Et l'homme peut facilement devenir le centre de sa propre existence, où l'homme passe un pourcentage non négligeable de son temps à penser à lui-même, à s'occuper uniquement de lui-même. Nous pouvons comparer le mot philotos, amour de soi-même, avec d'autres mots comme philadelphos, qui veut dire un amour fraternel, que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 22, 1 Pierre chapitre 1 verset 22, et philadelphia, que nous connaissons bien, qui veut dire l'amour fraternel, dans Hébreux chapitre 13 et le verset 1. Hébreux chapitre 13 verset 1. Nous comprenons bien que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres qui représentaient deux voies. Deux voies avec inévitablement deux aboutissements complètement différents quand ces deux voies sont empruntées. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ces deux voies. C'est le titre de ce sermon, les deux voies, c'est-à-dire la voie de prendre, qui est celle de Satan, et la voie de donner, qui est celle de Dieu. Deux voies, donc, diamétralement opposées. C'est la voie de prendre, c'est la voie que Satan a prise. Satan qui a dit « Je serai semblable au Très-Haut », il voulait prendre pour lui-même, il voulait avoir la domination, l'autorité, et Satan, qui, dès le jardin d'Éden, n'a pas arrêté d'influencer les hommes pour qu'ils font les choses à leur façon et qu'ils prennent cette voie de prendre. Tandis que l'autre côté, diamétralement opposé, il y a la voie de Dieu. Dieu est amour. Dieu donne sans cesse, c'est sa voix, c'est qui il est. C'est pour cela que nous lisons dans Jean 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et Dieu donne sans cesse à sa propre création. Nous sommes familiers également avec Actes chapitre 20 et le verset 35. Actes chapitre 20 et le verset 35. Mais nous allons, si vous voulez bien, regarder le contexte. Le contexte est très intéressant parce que ça met en perspective, si vous voulez, en comparaison, pour ainsi dire, ces deux voix. Commençons, si vous voulez bien, dans le verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Quand on édifie quelqu'un, c'est parce qu'on a donné. Et donné l'héritage avec tous les sanctifiés. Dieu donne sans cesse. Verset 33. Paul qui parle. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. La version Darby utilise le mot convoité. C'est-à-dire, je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Le mot convoité qui rejoint ce que j'ai dit au début du sermon. Donc, la voie de prendre. Verset 34. Vous savez vous-même, donc, Paul n'a pas pratiqué cette voie de prendre. Au contraire, dans le verset 34, il dit, vous savez vous-même que ses mains ont pour vous à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Le fait d'aller au-delà de pourvoir à ses propres besoins, d'avoir cet esprit-là, si nous avons le privilège d'avoir des enfants, nous avons aussi la possibilité, la bénédiction de pouvoir donner. Et Paul pourvoyait à ses propres besoins, mais aux besoins d'autres personnes aussi. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, de cette façon-là, qu'il faut soutenir les faibles, de donner à des gens qui ne se trouvent pas dans la même position que nous, qui n'ont pas la même possibilité que nous, de soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Adam Clarks dit ceci à propos de ce verset. C'est ma traduction. Un esprit qui est vraiment généreux, infiniment généreux, se réjouit des opportunités qui lui sont présentées. Évidemment, son esprit est sur le fait d'aider, sur le fait de donner. Un esprit qui est vraiment généreux, infiniment généreux, se réjouit des opportunités qui lui sont présentées pour faire du bien et se sent heureux quand il a de telles occasions. Quand il a de telles occasions, il sait utiliser ces occasions et il est heureux. Le mot traduit en français ici par bonheur, c'est le même mot dans le grec que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5 où le Christ donne les béatitudes et traduit dans les Matthieu chapitre 5 par le mot heureux. Parce que c'est une façon de vivre. Nous donnons et nous nous épanouissons. C'est la voie pour être heureux. C'est pas comme Harpagon qui économisait sur tout et refusait de faire le moindre dépense. Pour illustrer la voie de prendre, j'ai voulu parler de Laban, de son caractère, et nous allons voir, chemin faisant, les conséquences lorsque quelqu'un prend la voie de prendre. Parce qu'il y a inévitablement des répercussions, inévitablement. Alors, nous allons commencer dans Genèse chapitre 29 et le verset 15. Genèse chapitre 29, verset 15, nous sommes familiers avec l'histoire de Jacob. Jacob qui quitte la maison après ce qui s'est passé avec Ésaü, qui est chez Laban et qui passe un mois chez lui. Genèse 29, verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ?» Il avait vu ses qualités, il avait vu que c'était une bonne affaire, que Jacob était une bonne affaire pour lui. Et dans le verset 13, toujours le même chapitre, nous lisons que Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Vous pouvez imaginer donc que Laban était au courant d'un certain nombre de choses, et peut-être au courant de ce qu'Isaac avait dit à Jacob avant qu'il parte. « Prends-y une femme d'entre les filles de Laban. » Chapitre 28 et le verset 2. Toujours est-il que Laban a certainement vu les capacités, les qualités de Jacob. Il voulait les garder. Pour lui, c'était une bonne affaire. Et dans le verset 16, il fait une proposition. « Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Il était déjà son neveu. Il n'a pas pris ou n'a pas voulu le prendre comme associé, même s'il était de la famille. C'était une affaire. Nous voyons ici déjà son caractère. Le verset 18, où nous savons que Jacob aimait Rachel. Verset 18, Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Son plan uniquement pécuniaire, je ne parle pas de l'amour bien sûr, mais c'est un aspect uniquement pécuniaire, c'est cher payé. Je ne parle pas ici de l'aspect de l'amour de Jacob pour Rachel. Il est intéressant de remarquer quand il parle de « je te servirai », le mot « servir » est traduit ailleurs. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, Dieu dit en parlant des enfants d'Israël, et je cite, « Les Égyptiens tiennent dans la servitude. » La servitude. Et puis, c'est traduit ce mot aussi dans Lévitique chapitre 25, par le mot « esclave ». Et quand nous regardons l'histoire de Jacob, il est, pour ainsi dire, devenu un esclave. Il décrit lui-même ses propres conditions plus tard face à Laban. Nous sommes familiers avec l'histoire, comment Laban a trompé Jacob. Verset 25. Après que Laban a donné Léa pour femme à Jacob. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Il n'a pas tenu parole, il n'a pas respecté sa promesse, et nous voyons dans le verset 27 à quel point il voulait continuer de profiter de Jacob, de continuer à prendre. Verset 27, il dit donc à Jacob, Laban dit à Jacob, « Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Il a doublé la mise, si je puis dire, mais il a vraiment fait une affaire sur un plan humain. Au bout de 14 ans, nous voyons dans Genèse chapitre 30 et le verset 25, Jacob a servi Laban maintenant pour ses deux femmes pendant 14 ans. Rachel a donné naissance à Joseph. Nous lisons dans le verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Il s'est donné beaucoup de peine. Verset 27, Laban lui dit, puisse trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il a beaucoup reçu parce que Dieu avait béni Jacob. Et bien sûr, il voulait continuer à être béni. Et avec son caractère, il voulait continuer à apprendre. Apprendre pour lui-même. Garder pour lui-même. Il a vu ce qu'il a obtenu, ce qu'il a reçu. Il avait tout à gagner sur un plan humain en gardant Jacob. Il n'était pas indifférent à ce que Jacob pouvait lui procurer. Et comme le commentaire Jameson Fawcett and Brown en anglais dit, Laban était contre une séparation, pas à cause de son affection pour Jacob, on a vu comme il a traité Jacob toutes ces années, pas à cause de l'affection pour ses propres filles. On a vu aussi, et c'est précisé un peu plus tard, comment il a traité ses propres filles. Il avait à cœur ses propres intérêts. Verset 28. Fixe-moi, c'est ce que Laban propose maintenant de nouveau, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Il n'était pas magnanime. Il voulait continuer à recevoir pour lui-même. Il voulait continuer à être béni. Il négocie. Verset 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je vais paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Il faut comprendre que les brebis ou les chèvres tachetées et marquetées étaient relativement peu et rares dans la région. Laban, donc, pour avoir des conséquences, pensait de nouveau qu'il faisait une bonne affaire. Ces brebis ou ces chèvres qui étaient marquetées ou tachetées n'étaient pas d'une qualité inférieure. Il s'agit du nombre, il s'agit de la quantité et pas de la qualité. Bien sûr, Laban était d'accord, pensant qu'il faisait une bonne affaire. Verset 34, Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Il est d'accord. Verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés. Il s'est dépêché de faire ceci. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Pour avoir des conséquences, à ce moment-là, à ce moment bien précis, Jacob n'avait pas de troupeau. Il avait bien sûr sa famille, ses deux femmes, ses enfants, mais il n'avait pas de troupeau. Pas étonnant que Laban pensait qu'il pouvait continuer à profiter de Jacob, puisque les brebis et les chèvres tachetées et marquetées étaient rares. Évidemment, à travers les événements qui avaient lieu à ce moment-là, nous pouvons également regarder le caractère de Jacob. Parce que Jacob, avant sa conversion, a aussi beaucoup pris. Jacob a menti, Jacob était rusé, calculateur, nous connaissons son histoire, il a volé, il a menti, il a pris le droit d'aînesse de son frère. C'est Ésaü qui a dit, en parlant de son frère Jacob, « Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Le mot « enlever » est traduit ailleurs par « prendre ». Jacob aussi a pratiqué la voie de prendre. Il est allé très loin dans cette voie. Mais Jacob a changé. Dans le chapitre 30, toujours le verset 33, c'est un verset que nous n'avons pas vu tout à l'heure. Verset 33, parlant de Jacob qui parle à Laban, toujours. Verset 33, « Ma droiture répondra pour moi demain. » Et vous remarquez que Jacob parle ici de sa droiture. Il n'était pas droit avant. Il a pratiqué la voie de prendre. Ici, il parle de sa droiture. Il avait mûri spirituellement. Il a beaucoup souffert. Il a grandi. Verset 33, toujours, « Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Et ici, nous voyons un changement très radical. Il comptait sur Dieu. Il y avait un changement dramatique dans sa vie. Il avait développé, il a commencé à développer du caractère juste. Il a commencé à pratiquer la voie de Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni, et jusque-là, à Laban aussi, par la même occasion. Les choses allaient changer par la suite parce que Dieu est intervenu dans la vie de Jacob. Nous voyons également l'attitude des filles de Laban. Et l'attitude des filles de Laban à l'égard de leur père en dit long. En dit long sur cette voie que Laban pratiquait. Nous arrivons à Genèse chapitre 31. C'était juste avant le chemin du retour pour Jacob, au bout de 20 ans. Genèse 31, verset 7. L'Éternel dit à Jacob de retourner au pays de ses pères. Et puis dans le verset 7, ici, il parle à ses deux femmes, à Rachel et à Léa. Verset 7. « Et votre père s'est joui de moi et a changé 10 fois mon salaire. » Il essayait toujours de prendre la meilleure partie pour lui-même. « Et votre père s'est joui de moi et a changé 10 fois mon salaire. » Mais Dieu, qui était là, présent dans sa vie, il avait une relation avec Dieu. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Verset 8. Quand il disait « Les tachetés sont ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petites rayées. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Laban essayait toujours de prendre, mais Dieu ne l'a pas permis. Verset 11. Et l'ange de Dieu me dit, en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » Dieu avait vu la voie que pratiquait Laban, la voie de prendre, et Dieu est intervenu pour bénir Jacob, qui avait maintenant changé, qui avait mûri. Verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ?» Verset 16. « Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » L'anthropologie sociale distingue plusieurs sortes de prestations matrimoniales et ça existait la dot du mariage qui était apportée par la famille de l'épouse à celle-ci ou au ménage. Et ici, Laban a de nouveau pris. Sans parler de la façon par laquelle Laban a traité ses deux filles. La Bible détaille également la rivalité des deux sœurs, mais c'est Laban qui a engendré cette situation parce qu'il pratiquait la voie de prendre. La Bible parle de la voie de Caïn et nous pouvons, dans ce contexte, tout au moins, parler de la voie de Laban. Tout à l'heure, en parlant de Laban qui illustrait la voie de prendre, je disais qu'il y avait inévitablement, inexorablement, des conséquences, des répercussions parce qu'il a pris cette voie. Et quand les êtres humains prennent la voie de prendre, il y a des répercussions, des conséquences. Et quand nous regardons la vie de Laban, ce qu'il a pratiqué, nous voyons les fruits qui étaient engendrés, les fruits qui étaient mauvais. Il y avait la dispute, il y avait l'animosité, il y avait la rivalité entre ces deux sœurs, la tension, parce que ces deux femmes n'étaient pas heureuses, épanouies, comme elles auraient pu être. Sans parler du relationnel avec Jacob, son gendre, il a éloigné la famille de plus d'une façon. Il y avait du ressentiment, la famille était divisée. Jacob, pour finir, avait une famille dysfonctionnelle. Léa était une femme délaissée. Nous voyons le comportement des enfants de Jacob, certains enfants, de Ruben qui souillait la couche de son père. Nous voyons le comportement de Judas avec Tamar, Simeon et Lévi qui sont intervenus quand Dina était enlevée, les enfants qui ont vendu leur frère en captivité. Une famille donc vraiment dysfonctionnelle. Ils avaient, bien entendu, les enfants, leur propre responsabilité. Mais quand nous voyons Laban, son comportement et la voie qu'il a prise, nous voyons qu'en quelque sorte, il a préparé le terrain pour les problèmes qui allaient suivre. La voie de prendre est une voie qui engendre la souffrance. Cela ne paie pas. Et ça affecte notre caractère. Il y a un aboutissement inévitablement, il y a une conclusion. Et l'aboutissement n'est pas bon. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui parle de certains problèmes qui existent entre les êtres humains et qui analyse en amont la situation. Jacques chapitre 4, le verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça commence donc en amont. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, désirez prendre ce qui ne nous appartient pas, que ce soit le pouvoir, une responsabilité ou autre chose. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez, et même si on demande, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le fait d'avoir le soi au centre de sa vie, ce n'est pas demander pour pouvoir donner, c'est pour soi. C'est pas pour les autres. Jacques, si vous voulez tourner la page, Jacques chapitre 5 et le verset 4. Du point de vue biblique, les gens qui sont riches ont une responsabilité, surtout vis-à-vis des pauvres, des gens qui n'ont pas beaucoup. Et ici, dans Jacques chapitre 5, il parle des riches, verset 1. Allons jusqu'à verset 4. Verset 4, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Dans la version Shohaki, toujours chapitre 5, verset 4, nous lisons ceci. « Voici le salaire des ouvriers qui ont fauché vos domaines, retenus par vous, crient. » Retenu par vous, crie. Le mot traduit en français par frustré, d'après un lexique français, est parfois traduit par ailleurs par fraudé, par volé ou par dépouillé. La voie de prendre. La voie de prendre est dans le verset 5 et le verset 6 du même chapitre. Il donne d'autres détails. Il y avait donc des riches, certains riches, qui pratiquaient cette voie. Et bien sûr, il y avait un aboutissement, il y avait la souffrance, entre autres. Beaucoup de souffrance. Il y a inexorablement des répercussions. Parlons maintenant de la voie de Dieu, la voie de donner, qui est corroborée, confirmée, dans la Bible. Si nous regardons Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 5, nous voyons des précisions à propos de l'homme qui est juste. Il définit le comportement d'un homme juste. Et j'ai voulu lire ceci dans la version Rabina, je lis à partir du verset 7, donc, qui ne fraude personne, qui restitue le gage de la dette, qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à l'affamé et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à usure et n'accepte pas de surcroît. Allons jusqu'au verset 9, à la fin du verset 9, ayant énumérer tous ces traits de caractère, fin du verset 9, « Celui-là est un juste. Il vivra à coup sûr, dit le Seigneur Dieu. » Nous voyons dans la définition d'un juste, donc, c'est quelqu'un qui ne prend pas, qui ne commet pas de vol, et c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de donner. Voilà la définition d'un juste. Avec ceci en tête, j'ai voulu aller un pas plus loin et vous lire quelques proverbes qui montrent que le juste donne. Un juste, c'est quelqu'un qui observe bien sûr les commandements de Dieu, qui s'abstient de commettre l'iniquité, mais c'est aussi une façon de vivre. Il pratique la voie de Dieu, la voie de donner. Proverbes chapitre 12 et le verset 10. Proverbes 12 et le verset 10 dit ceci. Là, je lis de nouveau dans le rabbinat. Le juste a le souci du bien-être de ses bêtes. Le juste a le souci du bien-être de ses bêtes. Il donne. Il a l'habitude de donner. Il se donne pour le bien-être de ses bêtes. Adam Clarks, le commentaire Adam Clarks, fait un commentaire intéressant à ce sujet. En parlant de le juste qui donne pour ses bêtes, il considère ce qui est mieux pour le confort, le bien-être, la santé et la vie de la bête qui le sert. Il y a beaucoup de façons de donner. Proverbes, chapitre 12 et le verset 26. Proverbes 12 et le verset 26, nous lisons, le juste montre à son ami la bonne voie. Il donne, c'est une autre façon de donner. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Proverbes 21 verset, on va commencer avec le verset 25. Proverbe 21 et le verset 25. Les désirs du paresseux, le tout, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Évidemment, il a les yeux sur lui-même, il n'a certainement pas les yeux sur le fait de penser aux autres, de donner aux autres, de voir ce qu'il peut faire pour les autres. Tout le jour, il éprouve des désirs. Et le David dit, tout le jour, il désire avidement. Le rabbinat dit ceci, toujours Proverbe 21-26, sans cesse, on conçoit de nouveaux désirs. La suite du verset, mais le juste donne sans parcimonie. Sans parcimonie parce que le juste a l'habitude de donner. Le juste a l'habitude de penser aux autres, c'est toute sa vie. Il y a d'autres références dans Proverbe chapitre 29 et le verset 7. Proverbe chapitre 29 et le verset 7, où nous lisons ceci. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Le juste connaît la cause du pauvre parce que il s'intéresse justement à ceux qui sont défavorisés. Et ces quatre références ont un dénominateur commun. Il s'intéresse aux autres. Le juste s'intéresse même à ses bêtes. Quand nous regardons la femme vertueuse, décrite dans Proverbe chapitre 31, nous voyons à quel point elle donnait. Elle donnait dans tout le domaine. Elle avait une vie riche, épanouie, parce qu'elle avait une vie où, justement, elle donnait. Proverbe chapitre 31, donc, et le verset 12. Je lis ceci dans le rabbinat. Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur. Jamais elle ne lui cause de peine. Elle pense donner. Elle réfléchit au fait de donner. Elle sait comment donner. C'est donc sa façon d'être, sa façon de vivre. Verset 15, je reviens au second. Verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle donne, elle pourvoit. Sa famille est très importante pour elle, prioritaire. Verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle est consciente qui est malheureux. Elle est consciente de l'indigent parce qu'elle s'intéresse aux autres. Et elle est très active. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Quelqu'un qui travaille pour pouvoir donner, justement. Et le mot travail, que ce soit le nom ou le verbe, travailler, nous le retrouvons à trois reprises pour la femme vertueuse. Dans le verset 13, il y a aussi le verset 16. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Elle a beaucoup d'œuvres et de bonnes œuvres. Elle pratique la voie de donner aussi quand elle parle. Le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle édifie, elle donne de cette façon. Verset 11. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Son mari sait qui elle est, sait qu'il peut avoir confiance en elle. Vois bien comment elle vit. Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle se donne de la peine et elle est récompensée. Verset 28. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Elle reçoit aussi. Son mari se lève et lui donne des louanges. Elle donne beaucoup. Son mari aussi donne. Elle reçoit en retour par rapport à tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle donne sans cesse. Dans le Nouveau Testament, il y a un exemple qui nous est donné. C'est l'exemple de Barnabas, qui pratiquait dans plusieurs domaines la voie de Dieu. Actes, chapitre 4, et le verset 36. Actes, chapitre 4, verset 36, nous voyons ici son caractère de base, si je puis dire. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Le fait d'exhorter les autres n'est vraiment pas une sinécure. Il faut s'investir, il faut se donner de la peine pour exhorter, il faut vraiment vouloir aider, faire du bien. Donc Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendait un champ qui possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il pratiquait la voie de donner avec ses biens aussi. Mais regardons autre chose dans chapitre 9, acte toujours, chapitre 9, et le verset 27. Acte chapitre 9 et le verset 27. Nous allons lire le verset 26 pour situer un peu le contexte. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, nouvellement converti justement, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, évidemment à cause de son passé, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Le fait de faire valoir quelqu'un est un autre, et c'était une autre façon de donner de la part de Barnabas. Évidemment, il est beaucoup plus facile de critiquer, mais faire valoir à juste titre, c'est aussi donner. Il y a une troisième référence qui se trouve dans chapitre, toujours acte, chapitre 11, et le verset 21. Je saute au milieu d'un contexte. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il les a exhortés. C'était sa spécialité. Il s'investissait, il se donnait à fond. Verset 24, qui décrit le caractère même de Barnabas. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25, toujours cette même sollicitude. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Il se donnait pour son frère. Plus tard dans son ministère, il voulait donner une deuxième chance à son neveu, Marc. Et cette deuxième chance était payante, si je puis dire, puisque Paul a même écrit par la suite à Timothée, et je cite, « Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Barnabas suivait la voie de Dieu et par conséquence, il cherchait à aider et à donner. Nous pouvons facilement avoir l'esprit sur ce que nous n'avons pas. Éphésiens chapitre 4 et le verset 28. Éphésiens chapitre 4 et le verset 28, des consignes de la part de l'apôtre Paul, que celui qui dérobait ne dérobe plus, qui quitte cette voie pour aller dans la direction opposée. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donner, partager, le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Il y a une précision qui est évoquée ici, c'est à celui qui est dans le besoin. C'est le fait d'être pleinement conscient de ceux qui sont dans le besoin, d'avoir l'esprit vraiment sur les autres, de penser à l'autre et de son bien-être. Verset 29, toujours des précisions à propos de cette voix de Dieu. Verset 29, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Le mot communiquer, c'est la même racine de ce que nous venons de voir dans le verset 28. Du reste, la version Martin traduit cette partie du verset comme ceci, afin qu'il donne grâce à ceux qui l'écoutent. Et la version Chouraki, afin de donner une grâce à ceux qui entendent. Proverbe chapitre 10 et le verset 20 nous confirment que cette façon d'agir, ce comportement, est la voie de la justice. Proverbe chapitre 10 et le verset 20, la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. L'édification et le fait de communiquer une grâce à ceux qui entendent est un argent de choix. C'est un autre aspect de la voix de Dieu. Nous donnons à travers l'édification, à travers la consolation, à travers l'instruction. Vous pouvez voir les bienfaits potentiels de la langue dans Proverbes chapitre 15 et aussi dans chapitre 16, Proverbe chapitre 16, le verset 24. Proverbe 16, 24. Je ne m'y rapporte pas, mais vous pouvez étudier ceci à la maison. L'exemple suprême, l'exemple parfait, nous est donné par Dieu. L'amour parfait, l'amour absolu de Dieu, avec ce verset dans Jean 3, qui est si répandu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils en qui il a mis toute son affection. L'être qui a existé avec lui depuis toute l'éternité. Dieu ne pouvait pas donner davantage. Si nous ne faisons pas attention, notre religion peut être égoïste. Et nous pouvons mettre l'accent sur nos propres besoins, nos propres désirs, nos propres aspirations. Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu chapitre 25 et le verset 31. Le verset 31 nous donne le contexte. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » L'aspiration même d'un chrétien. Verset 35. Et vous remarquerez comme il définit ceux qui vont être dans le royaume. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Et chaque fois, c'est le fait de donner d'une façon ou d'une autre. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. On apporte quelque chose en visitant. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui posent des questions. Et puis, dans le verset 40, nous avons la réponse du Christ, le roi. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il y a une deuxième catégorie d'individus décrits dans le verset 42, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Une autre catégorie de personnes donc qui visiblement n'ont pas pratiqué la voix de Dieu, n'ont pas pratiqué systématiquement la voix de donner. Nous avons un choix entre le fait de chercher des opportunités pour donner aux autres, même si c'est parfois en dehors de notre zone de confort, ou bien de prendre systématiquement pour soi sans se soucier des autres. Le fait de donner revêt différentes formes. Il y a aussi différents niveaux quand il s'agit de donner. L'argent, ça peut être plus facile, ce n'est pas forcément, bien sûr, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des cadeaux. Quand on commence à donner de son temps, c'est un investissement. On se donne de la peine. Pour nous, c'est souvent un mélange de plusieurs aspects. Mais la voix de Dieu, le fait de donner, procure énormément, procure beaucoup. Ça construit un caractère positif. Déjà, la personne s'épanouit. C'est une source de bénédiction, de satisfaction et même une certaine sérénité. Et ça procure de la joie. Dieu est plein de joie. Dieu a de la joie en nous donnant. Parfois, nous voyons beaucoup de joie dans des familles nombreuses, des familles qui s'entendent vraiment bien entre eux et où les membres de cette même famille s'entraident, se donnent les uns aux autres, et où il y a de la joie parce que les gens ont donné. Nous avons la possibilité d'aider ceux qui sont dans le besoin. Le Christ n'était jamais trop fatigué pour donner. Il rencontrait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Il y a un domaine où nous pouvons faire beaucoup de bien les uns aux autres. Donner les uns aux autres, c'est la prière. La prière d'intercession où nous pensons à notre frère, nous pensons à ses besoins et nous prions pour notre frère pour que Dieu intervienne dans sa vie. C'est un cadeau magnifique, un investissement de sa personne. Nous pouvons également être encouragés parce que Dieu va nous récompenser pour ce que nous faisons. On ne le fait pas pour ça, mais Dieu est juste. Dieu voit comment nous agissons. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 8, je m'y rapporte pas. Éphésiens chapitre 6 et le verset 8, nous lisons ceci. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, parce que Dieu ne fait pas exception de personne, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait du bien. Pour conclure, j'ai voulu lire Luc chapitre 6 et le verset 38. Luc chapitre 6 et le verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça peut être positif ou ça peut être négatif. C'est à nous de choisir.